les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Cohabitaient en lui deux auteurs, l'un lyrique, populaire, parfois scabreux, drôle, l'autre d'un hermétisme total. Mais sans l'un, l'autre ne serait rien. Et l'on connaît plus le Gongora hermétique, son style foisonnant, sans oublier le mot forgé sur son nom propre, le gongorisme. Préciosité, abus de métaphore, le style culto. Une vie, une œuvre, dans Louise de Gongora ou le triomphe du baroque. Première diffusion sur France Culture le 27 mars 1986.
Gongora, Soledad Primera. Medialuna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pase estrellas. Cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lágrimosas de amor.
Une vie, une œuvre. Don Luis de Góngora ou le triomphe du baroque. Une émission proposée par Hubert Juin, réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Philippe Solers, nous sommes ici dans le bureau de l'infini et j'ai sous les yeux votre dernier livre qui a paru en folio directement et qui a pour titre « Théorie des exceptions ». Alors, est-ce que vous ne pensez pas que Gongora, justement, n'est pas une exception, mais une exception qui est en même temps un modèle, ce qui, je crois, est exactement le rôle de l'exception, dans votre conception du moins. Gongora, exception.
Gongora pourrait être là parce qu'il répond à tous les critères de l'exceptionnalité au sens où je l'emploie, c'est-à-dire que c'est en effet à la fois quelque chose qui définit une loi, une loi profonde, organique du langage, et qu'en même temps, il est exclu de la règle générale, et même, comme j'aime dire, il montre à quel point la règle en général est infirme. Donc, loin que l'exception confirme la règle, elle a pour fonction de dévoiler l'infirmité de la règle. Et d'autre part, parce qu'il est ô combien le représentant de l'art baroque universel, où on retrouve, comme par hasard, bien entendu, les élèves des jésuites. Toujours eux, les revoilà encore avec cette prolifération contradictoire et étincelante d'œuvres, aussi bien plastiques, architecturales, musicales et littéraires.
Et ça nous conduit à un détour vers Balthazar Gracian.
Et Gracian est dans Théorie des exceptions. Et entre Gracian et Gongora, il est évident qu'il y a comme une connaturalité d'esprit et une profonde stratégie commune quant au langage. Et en pensant que vous m'interrogeriez sur Gongora, je me suis dit, alors que je ne l'avais pas lu depuis longtemps, que c'est un des poètes, un des écrivains qui est le plus présent dans ma mémoire. La mémoire est un thème très fondamental de Gongora. « Oh, memorias », dit-il très souvent. C'est le poète comme Shakespeare ou Dante, ou Baudelaire, dont les vers me reviennent sans cesse en mémoire, presque spontanément, par moments, quand j'ai envie d'un rythme parfait et d'une pensée subtilement contradictoire et absolue en un sens. Et qu'on l'ait appelé de son temps l'Homère ou le Pindare andalou ne me paraît pas du tout exagéré, même si son influence a été ensuite combattue et qu'il ait fallu attendre le XXe siècle pour le retrouver. Ça me paraît considérable de voir que Gongora est dans cet espace où on enregistre très profondément, presque cellulairement, ses réussites verbales. Quand vous comprenez, par exemple, qu'un vers comme « A batallas de amor, campo de pluma » me revient très souvent, dans des circonstances parfois très nocturnes. « À bataille d'amour, champ de plumes », pourquoi il dit ça, n'est-ce pas? Eh bien, parce que, justement, les plumes sont chez lui, pas seulement l'emblème de l'écriture, mais aussi celui des oiseaux et du désir, comme chez Dante, d'ailleurs, où le désir est toujours signifié, soit par des flèches, soit par des plumes, etc. Il y a beaucoup de plumes chez Gongora. Mais un vers comme, oh, ce vers-là, « No es sordo el mar, la erudición engaña ». La mer n'est pas sourde, l'érudition trompe. Ouais. Voilà, ça ce sont des choses qu'on peut se répéter constamment, de même que par exemple dans les Soledades, ce vers exceptionnel, admirable, « Si mucho poco mapa le despliega », si beaucoup, peu de cartes le déploient. Regardez comme c'est superbement exprimé, c'est-à-dire, il est là dans une description du fait que le soleil va brusquement éclairer le paysage et va dévoiler à travers le brouillard tout un ensemble qu'on peut imaginer comme une plaine s'étendant à l'infini. Et la comparaison, c'est que en ouvrant une carte d'état-major, ou une carte du monde, planisphère, on va voir se dérouler brusquement beaucoup de choses en peu, en peu d'espace. Donc c'est ça, Gongora, c'est toujours cette espèce de condensation à la fois de la pensée, le cultisme. C'est le contraire de l'occultisme. Et c'est pour ça que l'occultisme déteste le cultisme. Et le cultisme, ça veut dire une science de la logique remarquable qui est à la fois une condensation des mots et une condensation de la pensée. Alors, cette tradition baroque espagnole est très oubliée. Parce que, je crois, historiquement, ce qui a pris le relais depuis deux siècles ou deux siècles et demi, c'est la poésie et la philosophie allemande, bien entendu, et qui a pesé de tout son poids sur la conception que nous faisons des rapports entre philosophie et poésie. Mais je voudrais prendre un exemple tout à fait éclatant de la permanence de Gongora. C'est, par exemple, les écrits très peu connus de Picasso. Picasso était un peintre qui n'arrêtait pas d'écrire et qui écrivait des textes qu'on pourrait dire automatiques si on se référait au surréalisme, qui sont plus que ça, parce qu'ils ne sont pas dans la tradition française de l'automatisme des surréalistes, mais il est directement, je dirais, dans la tradition, dans la continuité de Gongora. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le traducteur, Philippe Jacotet, parfois excellent traducteur de ces poèmes de Gongora, pas toujours, mais souvent, dit qu'il a commencé cette traduction pour qu'elle soit illustrée, au deux sens du mot, par Giacometti, que ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis qu'ensuite il a pensé que ça pourrait être illustré par Miro et que ça n'a pas pu avoir lieu. Mais quelle drôle d'histoire, parce que celui qui illustre Gongora de fond en comble, c'est Picasso. Il suffit d'entendre la façon dont Picasso écrit pour voir sa peinture, les mousquetaires par exemple, il y en a ici dans un coin, regardez-le, ça c'est du Gongora, c'est un mousquetaire de Picasso de la fin de sa vie.
Il y a aussi peut-être autre chose, Philippe Soler, c'est effectivement le cultisme de Picasso. J'entends par le cultisme, par exemple la guerre, par exemple le déjeuner sur l'air, par exemple les Ménines.
Tout à fait.
C'est-à-dire réflexion d'une peinture sur une peinture.
Il faut bien distinguer les mots, le cultisme. Et c'est en quoi, justement, Picasso n'était pas surréaliste, pas plus que Gongora n'était, spiritualiste, au sens d'une poésie qui voudrait nous faire atteindre l'au-delà. Mais au contraire, lui, il est dans la précision du concret. Encore, on trouve toujours les jésuites. Tout ça est admirable, comme ça traverse les siècles avec une aisance parfaite. Et Gongora, vous comprenez, qu'est-ce qu'il veut? Quand on lit les Soledades, on se dit, mais c'est barbant, on va pas pouvoir lire tout ça, qu'est-ce que ça raconte, de quoi s'agit-il? Il n'y a aucun drame, il y a simplement des mélanges et des entrechoquements de matière. Et c'est une poésie qui veut aller au fond de la matière et réfléchir sur les transformations fondamentales de la substance. Que vous ayez la mer, les nuages, les rivières, les ailes, le diamant, le papillon, le cristal, l'écume, l'or, l'argent, le saphir, encore une fois les flèches, la brise, les plumes, la poussière ou le soleil, vous comprenez? Il s'agit de mettre les mots dans ce fonctionnement minéral, aérien, terrestre, igné, liquide de la matière, et c'est tout ce qui le préoccupe. C'est pas, c'est comme la peinture que vous avez au XVIIIe siècle, où Tiepolo, ou Watteau, etc., vous montre simplement qu'il ne se passe rien, que le temps ne va nulle part, mais que vous pouvez, avec le langage, faire comme une sorte, en effet, de diamant intégral. Et alors ça, c'est ce qui est tellement étonnant chez Gongora, et qui résiste au temps, et qui résiste à la mémoire, qui oublie.
Soledad segunda. Entras el mar por un arroyo breve que arrecibillo con sediento paso de su roca natal se precipita, y mucha sal no solo en poco vaso, mas su ruina bebe y su fin cristalina mariposa, no alada sino undosa, en el farol de Tetis solicita. Muros desmantelando, pues, de arena, centauro ya espumoso el océano, medio mar, medio ría, dos veces huella la campaña al día, escalar pretendiendo el monte en vano, de quien es dulce vena el tarde ya torrente arrepentido y aún retrocediente. Era el lozano así novillo tierno, de bien nacido cuerno mal lunada la frente, retrógrado cedió en desigual lucha duro toro, aun contra el viento armado, no pues de otra manera la violencia mucha del padre de las aguas, coronado de blancas ovas y de espuma verde, resiste obedeciendo y tierra pierde.
Indissociable, inséparable de ce que l'on nomme le siècle d'or espagnol, Luis de Góngora est né à Cordoue en juillet 1561. Il est important, il est intéressant de remarquer que c'est justement en cette année 1561 que Fra Luis de León est nommé professeur à l'université de Salamanque. Et l'âge venu, c'est justement à l'université de Salamanque que le jeune Góngora va poursuivre ses études. Son premier poème, il est étudiant, servira de préface à la traduction espagnole des Lusiades du grand poète portugais Camões. Et puis, Luis de Góngora va devenir prébendier à la cathédrale de Cordoue. Il a une vie sans histoire, mais cependant, il est assez mal vu par les autorités ecclésiastiques et il se fait quelques ennemis notoires, Don Quevedo, qui est son cadet. Il écrit des romances et de la poésie populaire, et parfois des romances burlesques, de la drôlerie est évidente. Mais plus tard, en 1612 par exemple, il va s'attaquer à des poèmes d'une très très sérieuse ambiguïté et d'une très sérieuse ambition. C'est en 1612 qu'il écrit le Polyphème, c'est en 1612 également qu'il écrit la première Solitude, et on peut dire à ce moment-là qu'il assure le triomphe du baroque. Quevedo, donc, ennemi irréductible, parvient à le faire chasser, ni plus ni moins, de sa maison de Cordoue, et Luis de Góngora va s'installer à Madrid à partir de 1617. Il ne reviendra à Cordoue que peu de temps avant sa mort, laquelle surviendra en mai 1627. Philippe Jacotet, grâce à deux volumes de traduction, nous apporte un éclairage nouveau sur Góngora. En tout cas, il le remet dans notre actualité. Ces deux ouvrages ont paru aux éditions La Dogana à Genève. Je rappelle leur titre, Les Solitudes et Tres sonnets et un fragment. Mais justement, à propos de ces traductions, Philippe Jacotet étant le dernier en date, n'est évidemment pas le premier en date. Et il serait quand même très intéressant de comparer divers essais de traduction pour montrer peut-être la difficulté d'approche de Góngora et ce qui fait sa poétique intrinsèque, les traductions ayant toujours ce mérite de révéler finalement les structures d'une œuvre. C'est ainsi que je voudrais proposer aux auditeurs deux versions françaises différentes d'un même sonnet. Ce sonnet a pour motif la mort, ou si l'on préfère, le tombeau du Gréco. Je voudrais demander à Jean Boléry de nous lire d'abord la traduction de ce sonnet telle qu'elle nous a été livrée par Pierre d'Armangeat.
Sur le sépulcre du Gréco. Cette forme élégante, ô pèlerin, de porphyre luisant, très dur, clé, recèle en soi le pinceau le plus doux qui anima le bois et fit la toile vivre. Son nom, digne d'un souffle plus puissant que n'en veut le clairon de renommée, illustre le chant de ce grave marbre. Vénère-le et poursuis ton chemin. Gis le Gréco. Nature a hérité son art, l'art son savoir et Iris ses couleurs, la lumière Phébus ou bien Morphée les ombres. Urne telle, en dépit de sa dure matière, boive les pleurs et tout parfum qu'exsude de l'arbre sabéen l'écorce funéraire.
Et voici maintenant une autre traduction du même sonnet. Et celle-ci, elle est due à notre invité Bernard Sezet. Et je vais demander à Jean Boléry de la lire également.
Épitaphe pour le sépulcre du Gréco. Cette clé, en sa forme élégante, dure, de porphyre poli, dérobe à l'univers le pinceau le plus doux qui donne l'âme au bois et anime la toile. Son nom, digne de plus de souffle que n'en contient la renommée, illustre la table de ce marbre grave. Vénère-le, passant, et poursuis ton chemin. Sigis le Grec. Nature hérita de son art, de son étude l'art. Iris prit ses couleurs, Phébus ses lumières, sinon Morphée son ombre. Que cette urne si rude boive nos pleurs et les parfums de l'écorce funèbre de l'arbre sabéen.
Je voudrais remarquer tout de suite ceci. C'est que l'on voit au fil des ans par rapport aux traductions de Gongora, mais je pense que c'est valable pour toutes les traductions, que l'on passe d'un souci d'euphonie à un souci de rigueur de l'image. Bernard Sezet.
Oui, là, je crois que vous avez parfaitement défini ou exprimé ce que serait la réponse du traductologue. Examinant au fil de la chronologie les diverses traductions produites selon les âges ou les générations. La réponse du traducteur praticien serait peut-être différente, en ce sens qu'il ne procède pas à partir d'une théorie ou d'une réflexion conceptuelle, mais à partir de son intuition, à partir de sa sensibilité, à partir de son instinct. Or, il est certain que cela change aussi au fil des âges. Nous ne ressentons plus aujourd'hui la poésie de Gongora comme l'a ressenté, par exemple, Lucien Paul Thomas en 1932, qui fut un des premiers traducteurs et un des grands traducteurs en son époque de Gongora.
Il a même été mon professeur à l'Université libre de Bruxelles.
En effet, il était professeur à l'Université de Bruxelles. Ceci dit, la langue dans laquelle on cherche à transposer un grand poète classique, change elle-même. Le français d'aujourd'hui n'est pas le français du XVIIe siècle. Si l'on voulait faire une reconstitution archaïque ou archéologique de Gongora, on retrouverait peut-être des échos des traducteurs antérieurs. Mais s'il s'agit de lire, de relire, de retraduire Gongora dans la langue actuelle, les exigences mêmes de la langue, en effet, obligent, induit une nouvelle transposition, une nouvelle translation de ce poème. Mais en quelque sorte, le traducteur, à l'instar du critique, si on peut dire, fait advenir le poème. De même que le critique fait advenir le sens du poème, le traducteur, dans la langue nouvelle, fait advenir une nouvelle émanation, si l'on peut dire, ou une nouvelle illustration du poème.
Est-ce que ce n'est pas surtout vrai pour les poètes qui utilisent les métaphores ? Enfin, je m'explique. Quand Lamartine écrit, par exemple, « Salut, bois couronné d'un reste de verdure » pour célébrer l'automne, il est évident que nous tombons là sur un vers, je dirais, de type racinien. c'est-à-dire justement sur une musique. Mais Gongora n'est pas essentiellement une musique. Il est un ensemble de métaphores. Et je voudrais, à ce moment-ci, que Jean Bollery nous lise un poème très, je pense, significatif de Gongora, et qui est traduit par Philippe Jacotet.
L'urne du pauvre et le royal tombeau visitent-les, mémoire. Sans terreur, en cet espace où le bourreau des heures d'un égal pied fit des pas inégaux. Retourne des mortels ces oripeaux, ces os blanchis, ces cendres sans chaleur, en dépit du plus vain que pieux l'heure des précieux baumes orientaux. Puis descend dans l'abîme au sein duquel blasphème l'âme et dont les murs résonnent d'un bruit de plainte et de fer éternel, si du moins, ô mémoire, tu espères nous délivrer de la mort par la mort et par l'enfer triompher de l'enfer.
Urnas plebeyas, túmulos reales, penetrad sin temor, memorias mías, por donde ya el verdugo de los días con igual pie dio pasos desiguales. Revolved tantas señas de mortales, desnudos huesos y cenizas frías, a pesar de las vanas, sino pías caras preservaciones orientales. Bajad luego al abismo, en cuyos senos blasfeman almas y en su prisión fuerte hierros escuchan siempre y llanto eterno, si queréis, oh memorias, por lo menos con la muerte libraros de la muerte y el infierno vencer con el infierno.
Philippe Jacotet, vous êtes le dernier traducteur en date de Gongora. Nous venons déjà d'évoquer quelques-unes des traductions antérieures, mais le vrai problème qui me requiert, qui m'intéresse, c'est de savoir quels étaient vos principes de traduction d'une part, ou votre méthode, encore que je mette le mot méthode entre guillemets, innombrables guillemets, mais je me demande aussi si, parce que les poètes écrivent autrement, il ne faut pas traduire autrement. Par exemple, je pense que lorsqu'on traduit Strette, ce n'était pas vous, c'était André Duboucher, Strette de Paul Celan, qui est une écriture, une poétique, il ne faut pas aussi modifier, disons, la poétique de la traduction elle-même.
Oui, je pense que vous avez bien fait de mettre entre beaucoup de guillemets le mot principe et le mot méthode, parce que d'abord cette traduction, elle est pour moi très ancienne, elle est de 1960, et je dois dire à ma grande confusion que à ce moment-là, et plus tard d'ailleurs pas tellement non plus, je n'ai eu de principe ou de méthode rigoureuse de traduction. Et je crois que c'est tout à fait un tort de ma part. J'ai toujours traduit presque instinctivement, je ne veux pas non plus exagérer, mais à ce moment-là surtout, ou d'ailleurs je ne me souviens plus exactement des circonstances qui ont fait que je me suis intéressé aux solitudes et que je me suis lancé dans cette entreprise. Il fallait vraiment, je pense, que je sois un peu aveugle pour m'y risquer. Cela dit, il est bien sûr que l'on traduit une œuvre comme celle-là avec tout de même, si j'ai parlé d'instinct, c'est l'instinct du poète que l'on est soi-même et qui n'est pas complètement non plus irréfléchi. Et que par conséquent, ce que vous dites de du langage moderne, de la poésie, devait fatalement se retrouver, même si je n'y avais pas beaucoup réfléchi d'abord, dans ce travail. Si j'ai choisi une certaine direction tout de même, même si ce choix était quasiment instinctif, c'était entre deux directions de la traduction de la poésie qui me paraissent l'une et l'autre généralement excessive. Enfin, deux directions extrêmes. L'une qui serait la traduction des bucoliques de Virgile par Valéry et l'autre la traduction de l'Énéide par Klossowski. C'est-à-dire dans le premier cas, une traduction qui essaye de franciser au maximum le texte original et qui me paraît, pour aller vite et peut-être un peu brutalement, sombrer très vite dans l'académisme. Et il y a beaucoup de traductions de ce genre aujourd'hui où, véritablement, on a l'impression que... Enfin, je trouve que le langage, disons, valérien des bucoliques est par rapport à Virgile un peu comme la Madeleine par rapport au Parthénon. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment... C'est du néo-grec, d'une certaine manière. Et... Alors, du côté de la traduction, qui au contraire essaye de forcer la langue française à accueillir l'originalité, les propriétés de la langue de l'original, et je préfère cette direction, mais il me semble parfois qu'on en a, on l'a appliqué d'une manière trop méthodique et trop systématique. En ce sens que ce qui est, dans la langue latine, par exemple, puisque je pense à Virgile, une grande liberté de l'ordre des mots, comme la langue française s'y prête mal, des hardiesses ou des audaces qui, dans le latin, étaient peut-être beaucoup moins grandes, beaucoup moins originales, deviennent presque des extravagances dans le français. Donc, chaque fois que j'ai traduit de la poésie, de toute manière, et dans le cas de Gongora aussi, j'ai essayé d'introduire autant qu'il était possible dans le français la résonance de l'original, et dans le cas de Gongora, certaines hardiesses aussi de syntaxe, qui d'ailleurs, je parlais d'un poète latin, ce n'était pas tout à fait à tort, puisque Gongora a beaucoup de latinisme dans sa langue. Donc d'essayer de les introduire, mais sans pour autant... briser, disons, la poétique française à l'excès.
Philippe Jacoté, vous avez absolument raison, parce que vous êtes poète. C'est ce que vous avez dit, et il faudrait quand même ici le souligner. Mais en même temps, vos efforts de traduction me semblent quand même, disons, un peu conjoints. Je n'oublie pas que vous êtes le traducteur d'Homère, quand même, poète fondateur, Aède, si on peut dire. Vous êtes le traducteur de Gongora, qui en un sens est un poète fondateur. Vous êtes le traducteur de Musil, qui en un sens est un fondateur de la modernité. Alors tout ça me semble aller ensemble et vers votre création propre, c'est-à-dire vers vos poèmes.
Oui, personnellement je ne sens pas du tout le rapport, peut-être ai-je tort, entre mon propre travail poétique, dont j'ai d'ailleurs souvent dit qu'il n'était pas vraiment un travail, mais une sorte de réaction là encore presque automatique et nécessaire à une émotion préalable, et beaucoup moins que le bâtissage d'une œuvre, disons. Et je dois dire que en dehors du cas, par exemple, de Rilke, dont par nature j'étais beaucoup plus proche, je n'ai pas le sentiment d'avoir... j'ai plutôt le sentiment d'avoir établi une cloison étanche, par prudence, en quelque sorte, entre les très grands poètes qu'il m'est arrivé audacieusement de traduire, et mon travail personnel.
Quand passera la mode d'étudier Gongora comme un simple exercice de rhétorique, et qu'on se mettra à scruter plus profondément sa sensibilité, tout le contenu humain de son œuvre sera mieux apprécié. Alfonso Reyes.
Claude Esteban, dans Un volume, vous avez traduit du Gongora. Mais ce qui m'intéresse au premier chef, c'est peut-être, comme vous êtes poète et que vous scrutez, si on peut dire, le fait poétique contemporain surtout, bien que le fait d'avoir traduit Gongora indique votre ouverture, je me demande s'il n'y a pas une résurgence de Gongora dans la poétique contemporaine, en tout cas dans la nôtre.
Dans la nôtre, ça me ferait au fond assez plaisir de l'imaginer. Ce que je puis vous dire en effet, c'est qu'il y a eu, et depuis près d'un demi-siècle, une véritable résurgence en effet de la poésie, je dirais gongorine, n'est-ce pas, pour de multiples raisons. Et d'abord en Espagne, évidemment, lors de la résurgence fondamentale de Gongora, cela s'est passé au moment où un certain nombre de jeunes poètes du temps, n'est-ce pas, se sont rendus compte, après ce dessèchement qui avait eu lieu dans la poésie de leur propre langue, à quel point on trouvait là une sorte de mine tout à fait extraordinaire, une richesse, une invention verbale, syntaxique, rythmique, un flot d'images, n'est-ce pas, une construction poétique telle qu'ils ont senti le besoin de s'y référer. Vous savez que Lorca, Guillén, Alberti, d'autres encore moins célèbres, se sont ressourcés, comme on aurait pu dire, en effet, à la poésie gongorienne. Il y a eu comme une sorte de surgeon nouveau dû à leur lecture. Et je crois qu'en effet, ça a été très important pour la poésie espagnole, mais au-delà, je pense que la lecture gongorienne qui s'est faite est un peu issue, si j'ose dire, des lectures mallarméennes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le poème reconnu comme une sorte de construction musicale et intellectuelle à la fois, et même si Mallarmé n'a pas eu connaissance directe de l'expérience gongorienne, je crois que certains lecteurs de poésie ont pu trouver chez Gongora, de par leur lecture antérieure de Mallarmé, justement cette nécessité de la poésie redevenue poétique au sens fort du terme, au sens valérien presque du terme, d'une poétique, d'une construction, qui devait en effet prendre le relais, dans l'écriture française peut-être, d'une poésie soumise aux pulsions, de l'inconscient, de tout ce que nous savons, n'est-ce pas ? Peut-être du laisser-aller poétique aussi bien, et que une nouvelle nécessité d'architecture poétique pouvait prendre appui, prendre assise sur une nouvelle lecture de Gongora. Dans ce sens, je vous suivrai en effet.
La nymphe mienne, à l'heure du couchant, de ses fleurs dépouillant la verte plaine, autant en arrachait sa main amène, autant en faisait croître son pied blanc. Lui ondulait le vent qui s'enfuyait par une erreur galante, l'or si fin, comme la frondaison du peuplier bouge à la rouge pointe du matin. Mais quand elle eut ses belles tempes seins, des dépouilles diverses de sa robe, de l'or et de la neige les confins, je gage que brilla plus sa couronne, bien que de fleurs et l'autre d'astres faites, que celle qui, de neuf feux, le ciel fait.
Claude Esteban, quelque chose me frappe. C'est la découverte, finalement, ou la redécouverte, pour la France, parlons plutôt de découverte, elle est assez récente, de Gongora, enfin, réellement.
Oui.
Et que voyons-nous ? Nous voyons des poèmes qui tentent d'expulser le sujet. Le sujet en tant que monstre sacré, le grand épanchement lyrique, le romantisme pour tout dire. Et cela coïncide avec un mouvement théâtral qui remplace le monstre sacré, ou tend à remplacer le monstre sacré dans les exemples célèbres avec Parsemé et La fin de siècle, c'est-à-dire Sarah Bernhardt, Monet, Sully, etc., par l'acteur marionnettiste, par l'acteur gémier déguisé en pantin pour jouer Ubu, roi de Jarry. C'est-à-dire par aussi un congé donné à la grande expansion du jeu, du sujet.
Oui, bien, je crois qu'en effet, on trouverait chez Gongora cette même, je dirais, occultation du sujet poétique, du sujet pensant et écrivant, enfin d'une sorte de conscience un peu cartésienne qui présiderait à l'acte poétique, au bénéfice de l'expression poétique qui gomme le sujet. Au bénéfice donc du texte poétique, pour employer des mots qui ne sont pas tellement les miens, mais du texte poétique lui-même, ce qui suppose malgré tout la présence de l'architecte, mais sa disparition au niveau de l'édifice, n'est-ce pas, si vous voulez. Je dirais qu'il y a une espèce d'extraordinaire mise en place de la parole poétique qu'on pourrait comparer à ce qui va se faire immédiatement après Gongora dans l'architecture. Je dirais par exemple, si vous voulez, que pour moi, un poème comme Les Solitudes, qui est sans aucun doute La Soledad, est le grand poème de Gongora, qu'il a laissé d'ailleurs inachevé, comme si cette entreprise était presque trop importante pour lui, comme si elle rompait trop avec même son propre passé. Je trouverais dans cette espèce de grande façade un peu inachevée, mais qui malgré tout se maintient avec une magnificence extrême, comme une sorte d'ébauche de ce qu'allait être l'architecture d'un Borromini en Italie, vous voyez, 20 ans ou 30 ans plus tard. Pour moi, Les Solitudes de Gongora, c'est un peu San Carlo alle Quattro Fontane, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, qui est achevé, mais vous savez à quel point Borromini était aussi un homme de la difficulté de construction, au sens propre du terme, par rapport au Bernin, n'est-ce pas ? Il y avait cette volonté d'élaborer une structure à la fois très achevée et en même temps très libre dans son mouvement. Et le mouvement va bien au-delà du moi qui s'exprime, n'est-ce pas ? Il y a, je pense à une phrase de Michel-Ange, je crois qu'il dit « Per troppo variar natura è bella », n'est-ce pas ? De son grand et trop grand mouvement, la nature des choses est belle. Et non pas l'individu, mais mais c'est tout d'un coup cette efflorescence, cette mise en place d'un souffle qui va bien au-delà du moi personnel et individuel. Et il y a cela dans les solitudes de Gongora. Vous voyez, par exemple, ce poème me paraît tout à fait étonnant. Et je crois que Mallarmé, à sa façon, dans l'après-midi d'un faune ou d'autres poèmes, a essayé aussi de faire disparaître le moi au bénéfice d'une structure théâtrale. Eh bien, dans les solitudes de Gongora, vous trouvez la présence d'un moi, d'un individu qui parle et qui est au fond une sorte de naufragé qui voudrait maintenir son moi souffrant, douloureux, pétrarchisant. Enfin, le pétrarchisme est une sorte de romantisme avant la lettre, si on peut dire, et qui bientôt disparaît dans le récit au bénéfice d'un spectacle qui s'établit, qui s'élabore, qu'il s'agisse de fêtes, qu'il s'agisse d'activités humaines, qu'il s'agisse de réflexions, sans que le moi douloureux, le moi confus, le moi solitaire ne s'impose, n'est-ce pas? Tout ceci est au bénéfice d'une construction qu'on pourrait dire architecturale et théâtrale à la fois.
Seconde solitude. La mer pénètre par un ruisseau bref, qui pour l'accueillir le pas soiffé, de son rocher natal se précipite, profusion de sel en menu vase, non seulement absorbant, mais sa ruine. Et papillon de cristal, sollicite, elle est non mais ondée, contre la lampe de Tétis, sa fin. Des murs, alors démantelant de sable, centaure fait d'écume l'océan, moitié mer, moitié estuaire, deux fois les champs foulent en un jour. À gravir prétendant en vain le mont, duquel est douce veine, le torrent repentit trop tard et reculant. Ainsi, le vert et jeune taurion, de nobles cornes mal illunées le front, reculant, à céder en inégale lutte au dur taureau contre le vent lui-même armé. De nulle autre manière, à la grande violence du père des eaux, couronné d'algues blanches, de vertes écumes, il résiste, docile et lâche pied.
Maintenant, je vais essayer de lire en français. C'est très difficile pour moi de le lire. Quelques letrillas. Je ne sais pas comment on pourrait traduire les mots letrillas en français. Ce sont des chansons à rime populaire, la plupart des fois très drôles. C'est une traduction que Pierre Darmanja a fait pour Segers dans l'édition Gongora.
Severo Sarduy.
Donc, une letrilla. Que la veuve a tout sermon. Soupir fort sans raison, je vais bien, mais que point ne fasse entendre qu'elle me voudrait plus tendre, je ne crois rien. Que soit belle la mariée, bien vêtue et mal gardée, je le veux bien, mais... Que el excelente marido,
cinco puntos de Sevilla, bien puede ser. Más que calzando diez menga, quiera que al juste le venga, no puede ser. Que se case un don pelote con una dama sin dote, bien puede ser. Más que no de algunos días por un pan las damería, no puede ser. Que la vida en el sermón de mil suspiros sin son, bien puede ser. Más que no los dé a mi cuenta porque sepan dos se sienta, no puede ser, no puede ser. Que esté la bella casada, bien vestida y mal cerada, bien puede ser. Más que el bueno del marido no sepa quién dio el vestido, no puede ser. Que olvida la hija el padre, de busca y a quien le cuadre, bien puede ser. Más que se pase el invierno sin que ella le busque.
Et donc voilà la partie, si on peut dire, populaire, en tout cas la partie accessible, la partie entre beaucoup de guillemets, lisible de l'œuvre de Gongora, mais je vais développer ça un peu plus tard. Je pense que sans cette partie tout à fait populaire, tout à fait anecdotique, il n'y aurait pas l'autre Gongora. Et que les lire en opposition l'un à l'autre, en dichotomie, est faux. En somme, c'est les mêmes Gongora.
Que sea médico más grave, quien más aforismos sabe, bien puede ser. Más que no sea más experto, el que más hubiere muerto, no puede ser. Que acuda a tiempo un galán, con un dicho y un refrán, bien puede ser. Más que entendamos por eso, que en Floresta no está impreso, no puede ser, no puede ser.
C'est incroyable parce qu'on dirait que ce sont deux auteurs qui ne se sont jamais connus, qui sont de différentes époques, de différents siècles, de différentes cultures. C'est-à-dire la lisibilité totale, cette poésie tout à fait populaire dans la romance. D'un côté, cet homme en somme anecdotique, populaire, drôle, scabreux. Et d'un autre côté, et alors là, je n'exagère pas, le degré maximum d'hermétisme, si on peut dire, de chiffrement, du verbe chiffrer, même si on ne peut pas dire ça, auquel on soit arrivé dans toutes les langues. Malgré tout, ces deux hommes, l'homme du lisible, l'homme drôle, l'homme populaire et l'autre, sont les mêmes. Et ce qui est de plus extraordinaire, ils sont très dissociés quand on est jeune. Par exemple, quand j'étais un adolescent à Cuba, un élève de l'autre Gongora, le seul autre qui a existé, à savoir de José Lezama Lima, l'auteur de Paradiso, j'étais son élève et je lisais donc Lezama et Gongora. Et bien sûr, je méprisais cette partie populaire de son œuvre. Je me disais, c'est une rigolade, c'est des choses qu'il a fait pour s'amuser, pour être drôle, etc. Et ce qui compte, c'est les solitudes que je savais, et je sais encore bien entendu par cœur, de A à Z. Et puis donc, je ne suis plus cet adolescent, bientôt je serai dans ma cinquantaine, donc effectivement, ma lecture de Gongora a beaucoup évolué. Et je considère pas simplement maintenant que c'est le même poète, ce qui est biographiquement et historiquement vrai, mais que sans l'un, l'autre ne pourrait jamais exister. Et finalement, lorsque dans les solitudes, comme m'a fait Dámaso Alonso, il a fait quelque chose d'extrêmement drôle, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire, il a traduit, si on peut dire, Gongora en espagnol. C'est-à-dire, il a fait une version en prose et claire de solitude, vers par vers, numéroté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit, finalement, dans cette traduction, entre guillemets, de Gongora en espagnol, faite par Dámaso Alonso? Eh bien, on voit que le soutien de cet hermétisme, de cette codification, de ces hiéroglyphes denses et apparemment indéchiffrables de Gongora est le même que celui de la poésie populaire. C'est en somme une histoire, c'est en somme une narration, c'est en somme des métaphores qu'on peut réduire à leur degré lisible. Simplement, comme j'ai dit, ou comme j'ai essayé de dire, dans un essai qui se trouve dans mon livre Barocco, qui est en somme autour de Gongora, dans sa presque totalité, qu'est-ce qui se passe dans la poésie soi-disant hermétique? Ces métaphores linéaires, ces récits auxquels nous assistons au premier degré, dans la partie populaire, dans les romances, dans les letrillas, etc., eh bien, ils sont, ces métaphores, elles sont poussées au carré, c'est-à-dire promues, si on peut dire, à une force seconde. La métaphore littéraire de la poésie de tradition italienne, de la poésie de la Renaissance, etc., est ici multipliée au carré, à une puissance supérieure qui lui donne cette espèce de levure, si on peut dire, de densité baroque. C'est ça, en somme, le travail de solitude.
Paco Ibáñez.
La más bella niña de
nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar. Yéndose a la guerra, ¿quién era mi paz? Dejadme llorar, orillas del mar.
Sur ce terrain de la poésie populaire, Gregorio Manzur, et j'entends par poésie populaire comme Severo Sarduy, une poésie qui narrative, enfin, qui est une des parties constitutives de Gongora, de son œuvre, il y a les romances. Et je sais que parmi ces romances, il y en a une que vous privilégiez surtout et qui date de 1585.
Oui, il s'agit d'une histoire d'un guerrier, d'un soldat espagnol qui est au service du roi d'Oran, en Algérie. Et on dit que ce soldat servait le roi avec ses deux épées. Dès ses deux épées servait le roi. Je suppose que de Gongora voulait dire soit d'une main l'épée, soit de l'autre la lance, ou soit qu'il les servait avec son âme et son corps, disons. Mais alors, cet soldat espagnol était amoureux d'une belle africaine. Et au moment du début du roman, il se trouve avec elle, faisant l'amour dans le lit. Et en ce moment-là, on entend les galops des chevaux. Ces chevaux sont repérés par les veilleurs qui guettent dans les atalayas, dans les tours des gueux, qui voient les brilles de leurs épées sous la lune. Et en ce moment-là, ils tirent des coups de fusil, les cloches du château retentissent, et alors ces soldats saute du lit, il prend tout de suite l'épée, il dit, mon devoir m'appelle, il faut que j'aille lutter, défendre mon roi. Mais alors la dame qui est dépitée lui dit, oui, oui, vous pouvez aller tout nu si vous voulez, puisque votre poitrine est une cuirasse de fer qui n'est pas susceptible d'accueillir mes plaintes. Partez, je suis de trop pour vous, et votre roi vous réclame. Alors je vais transformer ces lits d'amour à nous deux en un champ de bataille, qui sera ma propre bataille. Mais alors, les soldats la prennent entre ses bras et lui disent, comprenez-moi, il faut que j'aille, c'est mon honneur qui est en jeu. Si je n'y vais pas, sans honneur, je ne pourrai plus vous aimer. Mais alors, comprenez que mon corps part à la lutte, mais mon âme reste ici avec vous. Voilà, avec cette excuse, on passe à un autre chapitre, et c'est là un autre trait de génie de Gongora. Il commence le chapitre en disant « Entre los sueltos caballos de los vencidos jinetes que por el campo buscaban entre lo rojo, lo verde » et il y a une belle traduction.
Enfin, Pierre d'Armanja traduit enfin, cette première strophe ainsi « Entre les chevaux épars, des jinetes en déroute qui cherchait dans la campagne, parmi le sang, la verdure. » Évidemment, l'image est splendide et admirable. Enfin, c'est vraiment...
Oui, mais en espagnol, c'est encore plus belle, parce qu'il dit « parmi les rouges, la verdure ». C'est-à-dire que le lecteur est obligé à chercher l'image, c'est-à-dire à décrypter que les rouges, c'est le sang des soldats vaincus, qui sont morts, et parmi les cadavres, ces chevaux-là... dépourvus de leurs cavaliers, sont obligés à aller bruter l'herbe parmi ce désastre de la guerre. Mais alors là, il y a un des chevaux qui se promène, qui est pris par cet soldat espagnol, c'est le cheval le plus fougueux, et il vient avec le capitaine des jinetes, des morts, prisonniers. Alors ils montent tous les deux sur ce cheval, et ils partent au galop pour donner son prisonnier au roi. Mais au milieu de la course, il entend pleurer le soldat espagnol. Alors il se retourne et il voit que les soldats morts pleuraient. Alors il s'étonne, il dit, mais écoute, c'est pas possible. Tu es fier, tu es valeureux, tu as lutté avec moi durement, tu as failli me tuer, et maintenant tu pleures comme un enfant. Explique-moi de quoi il s'agit. Alors le capitaine mort lui dit, tu es gentil de vouloir m'écouter, je vais te raconter mon histoire. Alors je suis grandi dans ce pays, ce beau pays, qui est le mien, à côté d'une belle fille, et depuis notre plus tendre enfance, nous avons juré amour éternel. Mais voilà que passé l'adolescence, cette fille est devenue frivole. Elle a accepté la cour qui lui faisait d'autres hommes et elle m'a délaissé. Et depuis ce temps-là, j'ai souffré. Et jusqu'à maintenant qu'elle est devenue une femme adulte et dont la raison a repris le pouvoir sur elle, sur son âme, elle vient de me dire qu'elle veut m'épouser et faire un foyer avec moi, avoir des enfants et tout ça. Et c'est en ce moment-là que toi, tu me fais prisonnier. Alors tu peux imaginer dans quel état je suis, tu peux comprendre le pourquoi de mes larmes. Alors le soldat espagnol, qui n'est plus ni moins qu'un cavalier du siècle d'or espagnol, avec la même dimension que Don Quichotte, arrête tout de suite le cheval et lui dit, descends, tu es libre. Si c'est pour ça que tu pleures, je ne peux pas voler ton bonheur de cette façon. Je préfère perdre ma victoire, mais que tu sois heureux. Va auprès de ta fiancée et surtout pas qu'elle ne m'envoie pas de pressants pour payer la rançon. Qu'elle ne m'envoie pas ni de beaux tapis brodés, ni de tissus en soie, etc., peints ou brodés d'une façon exquise. Je ne veux rien de ça. La seule chose que je veux, c'est que quand tu la reverras, tu auras une pensée pour moi. Alors le capitaine mort s'agenouille, tombe par terre et lui dit, Allah te protège 1000 ans, brave soldat espagnol. Tu es plus brave en me donnant la liberté qu'en m'avant fait ton prisonnier. Que ta renommée soit entendue par tous et que tes triomphes ne cessent de se répéter. Voilà, il part, l'espagnol prend son cheval et s'en va vers le roi. Et là, nous voyons que Góngora est encore plus moderne dans certaines façons que Cervantes même, puisqu'il commence son roman avec l'acceptation de l'amour que nous appelons charnel, l'amour érotique, n'est-ce pas? L'homme, le soldat espagnol et son amante, ils sont en train de faire l'amour tout simplement tout nu, puisque lorsqu'il saute de son lit, il est nu. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de l'érotisme qui fait qu'il s'est entré de modernité dans les cas de Góngora. Mais aussi, n'oublions pas que Góngora baigne dans cette énorme richesse qu'était l'Espagne du XVIe siècle, où il y avait toute la tradition mauresque, la tradition juive et la tradition catholique qui est en vigueur, qui tous trois faisaient de ces pays et de ces siècles d'or espagnol une véritable source de poètes, de musiciens, de créateurs de tout ordre.
Et qui était, là vous avez parfaitement raison, encore le creuset des trois cultures. La maison de Cordoue,
absolument,
de Góngora, c'est l'Andalousie, et sa voisine, l'église, si on peut dire, sa voisine, le lieu de réunion des musulmans, la mosquée, oui. Et sa voisine, la synagogue. C'est peut-être un signe tout à fait caractéristique de Góngora.
Absolument, et je crois, je l'espère, que l'époque actuelle d'Espagne, qui est en train de revendiquer la culture juive et la culture arabe, tout en capitalisant, comme toujours, son tradition chrétienne, je crois que nous pouvons vivre actuellement, l'Espagne peut vivre actuellement, une reflorescence de toute cette richesse qui somnole, disons, dans les backgrounds, dans les tréfonds de sa culture.
Thank you.
il est évident que l'on ne peut en aucun cas dissocier Gongora de la ville de Cordoue. C'est réellement sa ville, il y a sa demeure, il occupera les fonctions de prébendier à la cathédrale, et également il va magnifier Cordoue dans un sonnet admirable. Cependant, les romances et les lettrias qu'il écrit et qu'il publie déplaisent à la hiérarchie ecclésiastique tant et si bien qu'il devra répondre à des accusations graves formulées contre lui par son évêque.
Accusation de Monseigneur Pacheco. Premièrement, le sieur Gongora, prébendier, assiste rarement aux exercices du chœur, et quand il y vient, il quitte souvent son siège. Deuxièmement, il parle beaucoup durant l'office divin. Troisièmement, il hante les groupes qui se forment sous l'arc des bénédictions et où l'on s'entretient de la vie d'autrui. Quatrièmement, il a assisté à des combats de taureaux sur la place de la Corredera contre les mandements express de sa sainteté. Cinquièmement, enfin, il vit comme un tout jeune homme, s'occupe jour et nuit de choses frivoles, fréquente des acteurs et écrit des vers profanes. Monseigneur Pacheco. Réponse de Gongora. Premièrement, je n'ai pas été des moins assidus, et mes allées et venues ont toujours été justifiées, soit par une nécessité personnelle, soit par des affaires auxquelles je fus appelé. Deuxièmement, j'ai toujours gardé, pendant les heures, le plus grand silence. Et souhaiterais-je le contraire, j'ai à mes côtés un sourd et un qui ne cesse de chanter. Il faut donc bien que je me taise, puisque personne ne saurait me répondre. Troisièmement, aux réunions qui se tiennent sous l'arc des bénédictions, assistent des personnes graves et vertueuses. Et les sujets qu'on y traite sont si différents de ceux qu'on me reproche que je m'abstiens de répondre pour n'offenser personne. Quatrièmement, si j'ai vu les combats de taureaux l'an dernier à la Corredera, c'est qu'il s'y trouvait des personnes plus âgées que moi et d'un rang ecclésiastique plus élevé, qui ont sans doute plus d'obligations que moi de connaître et de craindre les mandements de sa sainteté. Cinquièmement, ma vie n'est pas si scandaleuse. Et je ne suis pas si vieux que l'on puisse m'accuser de vivre en jeune homme. Je ne fréquente les acteurs et autres personnes de cette profession que chez moi, où je les reçois comme font tant d'autres gentilshommes honorablement connus. S'ils viennent chez moi plus volontiers, c'est que j'aime tant la musique. Si j'ai écrit des vers avec quelque liberté, celle-ci est moindre qu'on ne le dit, car la plupart des lettrias qu'on m'attribue ne sont pas de moi. Comme votre seigneurie pourrait l'apprendre si elle daignait s'en informer. Enfin, si ma poésie est moins spirituelle qu'elle ne devrait, ma courte science théologique en est l'excuse. Et j'aime mieux être condamné pour légèreté que pour hérésie. Gongora, 1589.
Garde, bergère, tes agneaux. Bergère, âne, garde ta foi. Celui qui t'a faite pastour ne te dispense d'être femme. Laisse aux pierres la fermeté et sache même que parfois, quelle que soit leur dureté, aux ciseaux elles sont dociles. Ce n'est pour une abeille seule que l'œillet garde ses pétales. Plusieurs vont boire la rosée dont est brodé son incarnat. Le cristal de ce ruisselet si onduleusement fidèle refuse à l'absent son image tant qu'il ne vient pas le revoir. Malheur à toi si tu imites en leur lascive ingénuité les oiseaux de la déité qui fut d'abord un peu d'écume. Pour s'être longtemps attaché à la beauté d'un jeune ingrat, la nymphe des forêts s'est vue ombre vocale devenue.
Claude Esteban, une chose encore, c'est celle-ci. Il me semble que pour Gongora, C'est vrai, le poème se boucle sur lui-même. C'est vrai que là, Mallarmé va, d'une certaine manière, le redécouvrir, enfin, le retrouver. C'est vrai qu'il s'agit d'une architecture. C'est vrai qu'on pourrait parler d'un évanouissement du sujet, un peu comme Thomas de Quincey d'une part et Charles Nodier de l'autre décrivent la disparition successive de Piranèse à l'intérieur de ces prisons. Enfin, il y a peut-être un aspect aussi piranésien chez Gongora. Il y a autre chose, cependant. C'est que dans cette époque où est plongé Gongora, qui est encore une époque, disons, scolastique, avec un primat théologique très évident, il y a aussi une ligne de fuite, qui est une autre ligne de fuite, qui, vers la mythologie.
Oui, alors là, c'est extrêmement important. Vous touchez là un point, je crois, majeur de son travail. C'est que dans cette époque, et surtout en Espagne, tout pénétré, cette époque toute attentive au militantisme catholique, n'est-ce pas, à cette espèce de violente hostilité à ce qui n'est pas la loi chrétienne, on trouve chez Gongora, peut-être d'ailleurs par des origines pas aussi chrétiennes, pas aussi catholiques qu'il n'a été obligé de les mettre en avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était lui-même prébendier de la cathédrale de Cordoue, donc il se devait de maintenir une sorte d'orthodoxie, disons, de l'afficher. Il y a chez lui l'absence totale de ce genre de, je dirais, de structuration de l'esprit, selon les lois d'une scolastique ou selon les lois d'un christianisme héroïque et militant, et le recours, par un certain côté, en effet, aux grandes affabulations mythologiques qui lui accordaient une liberté beaucoup plus grande sans les interdits moraux, intellectuels, sensuels qui étaient le fait de son époque. Et je crois que là, en effet, dans cette espèce d'exaltation tout à fait étonnante de la mythologie, mais je dirais, non pas une mythologie pastiché ou remodelé à la manière du classicisme français ou des néoclassiques, mais une sorte de vertu nouvelle retrouvée dans la résurgence des mythes et leur naturel et leur vitalité profonde, il y a là comme le refus de toute une, on pourrait dire, de tout un corset moral et mental qui était bien le fait de son époque, n'est-ce pas ? Et je dirais que dans la sensualité extraordinaire qui affleure dans le texte gongorien, si on le compare par exemple au désabusement métaphysique d'un Quevedo, il y a là des origines, un retour à des origines mythologiques, mais je dirais au-delà de cela, c'est la redécouverte, je dirais, de cette époque où le grand dieu Pan n'était pas mort, n'est-ce pas ? Il revient sur les rives de la Grèce, ou plutôt pour lui de l'Antiquité, et c'est une époque pré-chrétienne qui apparaît là. Je dirais en quelque sorte que pour lui, l'eau est animée véritablement de nymphes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une manière de poser un cadre mental, historique, archéologique sur le réel, mais au contraire de voir la nature naturante s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment extrêmement neuf, et je dirais qu'il va beaucoup plus loin que Mallarmé, qui à la fin restructure et en revient à une sorte de temporalité et d'espace hivernal, n'est-ce pas, comme si les choses à nouveau étaient obligées comme de se dessécher. Au contraire, chez Gongora, il y a cette profusion de réel, cet éclatement sensoriel tout à fait étonnant qu'on retrouverait d'ailleurs dans ses poèmes et dès le départ. Si vous voulez, je songe à un sonnet de jeunesse, n'est-ce pas, que Manuel de Falla a mis en musique deux siècles plus tard, qui est un hommage à sa ville de Cordoue. Et si vous connaissez Cordoue, vous voyez à quel point, là aussi, le catholicisme n'est pas parvenu, en quelque sorte, à cloîtrer la ville. On y sent la présence, bien sûr, mauresque, on y sent aussi tout cet arrière-fond juif, n'est-ce pas ? Et dans l'exaltation qu'il fait de sa ville, il y a, je dirais, un hommage rendu à tout ce passé magnifique et qui vit, qui continue à vivre à travers lui, n'est-ce pas ? Je me permets de vous lire... J'ai traduit ce sonnet, tant bien que mal, enfin j'ai essayé d'en maintenir une sorte de richesse et de rythme. Et voici ce que j'en ai retenu, n'est-ce pas ? À Cordoue, ô mur altier, tour haute couronnée d'honneur, de majesté, de braverie, ô fleuve grand, roi de l'Andalousie, au sable glorieux, sinon doré, ô riche plaine, ô montagne dressée que protège le ciel, d'or le jour, ô ma patrie, ô fameuse toujours, et par la plume et par l'épée. Que si parmi ces ruines, ces décombres, qui lustrent le génie, les baigne le darro, ta mémoire pour moi n'est vie, que mes yeux loin de toi ne méritent jamais, et ton mur, et tes tours, et de revoir ton fleuve, ta montagne et ta plaine, ô patrie, fleur d'Espagne. N'est-ce pas, ce monde minéral qui tout d'un coup devient fleur, qui devient fleuve, qui devient air, n'est-ce pas, il y a une sorte de comme dirait Bachelard, n'est-ce pas, une sorte de rêverie sur les éléments naturels chez lui, qui est d'une force et je crois d'une modernité tout à fait admirable.
Oui, donc les sonnets les plus connus de Góngora, son poème le plus connu, et peut-être un des plus beaux de l'histoire, tout simplement. C'est le sonnet à Cordoue. Je tiens tout de même à le lire en espagnol parce que malheureusement, c'est nullement la faute du traducteur, c'est la faute de la différence des langues et aussi la faute du fait qu'on croit qu'il y a un art qui existe et tout le monde parle et brode et dit des choses autour de cet art qui n'existe pas, qui est l'art de la traduction. Ça n'existe pas, donc je tiens absolument à le lire en espagnol. O excelso muro, O torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía, O gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas, O fértil llano, O sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día, O siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro Baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, aux fleurs d'Espagne.
Severo Sarduy, on m'avait dit que chaque fois que vous alliez à Cordoue, eh bien, vous alliez visiter la maison de Góngora. Moi, je ne connais pas cette maison. Mais vous avez écrit effectivement la métaphore au carré dans votre livre Barocco, nous l'avons évoqué. Et je suis frappé, parce que vous savez, je travaillais sur Victor Hugo. Or, la maison de Victor Hugo à Hauteville House est une sorte de symbole, de métaphore même de l'œuvre. Mais la maison de Góngora.
Alors là, c'est extrêmement curieux. Vous allez me parler donc de cette maison de Victor Hugo. La maison de Góngora est une des choses les plus surprenantes qu'on puisse voir au monde. Mais je dirais, une des leçons d'écriture les plus inattendues. Si vous voulez savoir, j'ai suivi dans cette maison, où nous parlons aujourd'hui, cette leçon de Góngora. J'adore la peinture et j'ai beaucoup d'amis peintres. J'ai même la joie d'avoir une petite collection de cadeaux de mes amis peintres. Eh bien, je vous défie de voir dans ces murs qui nous entourent et même dans presque toutes les autres pièces, les moindres ornements. Comme vous voyez, tout est blanc, passé à la chaux, pas tellement blanc que ça, mais enfin, il n'y a rien qui s'ajoute. Eh bien, pourquoi? Je pensais justement que l'habitat d'un poète, comme vous venez de le dire, était une espèce de métaphore ou, si on peut dire, d'analogie de son style. Je me disais exactement ça. Et donc, j'étais très curieux d'aller voir la maison de Góngora, ce que j'ai fait à plusieurs reprises de ma vie. J'ai même cherché des documents pour voir si la maison avait varié ou était changée dans les cours des siècles. Eh bien, non. La maison est telle qu'elle fut, elle est toujours là à Cordoue, dans une des places les plus connues de la ville, et elle est absolument et rigoureusement blanche, dépouillée, nue. Donc, les degrés maximum de baroque, la construction la plus élaborée de la langue espagnole, cette espèce de bâtiment d'alchimie, d'énormes cathédrale góngorine, eh bien, elle s'est élaborée au milieu du vide, dans un habitat blanc, passé à la chaux, nu. Et aussi, chose absolument surprenante dans une chaleur étouffante que celle du sud d'Espagne en été, où il écrivait très souvent. Donc effectivement, je crois qu'il écrivait plutôt par contraste, par défi, je dirais par contraposto, qui est le mot-clé du baroque en peinture, et même je dirais presque, pour employer un autre mot très caravaggesque, par clair-obscur. Il voulait donc ajouter quelque chose dans la page, créer quelque chose contre ce qui l'entourait, qui était le blanc et le vide. Donc, conseil apparent de cette écriture, pour produire du baroque, vider tout autour, vider le mur, vider la maison, et surtout, mais là c'est peut-être mon côté zen qui me souffle ça, vider vous-même. Pourquoi ? Parce que le baroque, et c'est encore peut-être une perception de cet art à laquelle j'arrive, l'âge avançant, le baroque est une obturation du sujet, une élimination du sujet. Ce qui disparaît dans la grammaire spécifique de l'œuvre baroque, c'est le sujet. Je veux dire, le sujet dans le sens 19e de ce terme, donc une entité psychologique, monolithique, et productrice de sentiments, d'émotivité, de personnalité. Je dirais à la limite, et ce n'est pas une boutade, que les solitudes n'ont pas d'auteur, dans la mesure où il n'y a pas un sujet comme ça qui irradie quelque chose, qui produit ça. Et je dirais même que les chapelles et l'architecture de Churriguera, le grand architecte baroque espagnol, que je viens d'ailleurs de visiter et de parcourir le long de l'Espagne, n'ont pas d'auteur non plus. Le baroque est donc pas simplement un remplissage, comme on croit très souvent. On parle beaucoup de l'horreur vacui, de la peur du vide, de la prolifération incontrôlée. On a fait même des métaphores un peu cancérigènes autour du baroque, de quelque chose qui se multiplie. Eh bien, oui, c'est vrai à la surface. À l'intérieur, il y a un grand vidage du sujet, un rejet du moi.
Verdes hermanas del audaz mozuelo, por quien orilla el po dejaste presos, en verdes ramas ya y en troncos gruesos el dilatado pie, el dorado pelo. Pues entre las ruinas de su vuelo sus cenizas bajar en vez de huesos, y sus errores largamente impresos de ardiente llamas vistes en el cielo, acabad con mi loco pensamiento, que gobernar tal carro no presuma antes que le desate por el viento con rayos de desdén la beldad suma y las reliquias de su atrevimiento esconde el desengaño en poca espuma.
Philippe Jacoté, au moment où nous en sommes de cette émission, nous avons évoqué longuement Gongora, nous avons évoqué peut-être pas suffisamment son essaimage. J'oserais dire ça, vous aimez beaucoup le mot semaison, par exemple. Alors voilà, la semaison de Gongora. Aujourd'hui, et grâce à vous d'ailleurs, grâce aux deux traductions qui viennent de paraître par votre fait, nous retrouvons Gongora. Nous le retrouvons dans un langage moderne. Alors, Gongora, dans la poétique contemporaine, dans une postface, vous parlez notamment de Ponge. Je ne pense qu'il n'y a pas que Ponge.
Oui, le rapport avec Ponge est le plus évident, d'ailleurs. Enfin, lui-même me l'a inspiré, puisqu'il a mis l'accent là-dessus, et que dans son Malherbe, il situe... Enfin, vous savez qu'il fait côtoyer autour de la même table Shakespeare, Cervantes, Gongora... Et Malherbe, et de manière assez amusante d'ailleurs, c'est, selon lui, c'est Malherbe qui reste le dernier à table, comme étant le plus fort des quatre, ce qui n'est vraiment pas mon sentiment quant à moi. Mais il était naturel que je fasse ce rapprochement avec Ponge, vraiment parce qu'il y a là deux ordres de parenté. Il y a d'abord l'attention très vive de Gongora à la réalité concrète du monde, et ça c'est une chose qu'on oublie généralement de dire à propos de Gongora, enfin il y a cette richesse du sensible, et en même temps la rigueur et la précision de la définition du sensible, dans les solitudes en particulier. Et là vraiment, il y a parfois des rapprochements avec Ponge qui sont très frappants. Et puis aussi quelque chose d'autre qui est cette espèce d'attitude qu'il m'a semblé voir chez lui, de défi au néant, et de cette façon d'opposer à ce qu'on a l'impression qu'il ressent comme le néant et la destruction probable de toute chose, d'opposer à cela la langue la plus rigoureuse, la plus superbe aussi, enfin dans une sorte de défi presque de Don Juan, je dirais. Et alors là, il y a vraiment une parenté qui me semble très frappante. D'autre part, sans doute, un poète auquel je suis personnellement moins attaché, comme Saint John Perse, n'est-il pas si loin non plus de l'univers de Gongora, par la richesse et aussi par le goût de l'éloge. Enfin, parce que bon, c'est tout de même Gongora, c'est avant tout, on parle toujours du gongorisme comme d'un hermétisme, c'est avant tout la splendeur, à mon sens. C'est l'éclat de Gongora qui m'a frappé beaucoup plus que toute autre chose. Et bon, la louange, l'éloge chez Saint John Perse, c'est aussi une ambition essentielle de sa poésie, et aussi le côté baroque, si l'on veut. Enfin, il convoque le monde entier dans ses poèmes, et Gongora, dans les solitudes, le fait plusieurs siècles avant lui.
Verte sœur du jeune homme téméraire, pour qui, devant le pot, avait laissé prendre en feuillage vert et tronc grossier votre pied dilaté, vos cheveux d'or. Puisque parmi les ruines de son vol, vous vîtes au lieu d'eau tomber des cendres, et ses erreurs largement imprimées par de brûlantes flammes sur le sol. Mettez un terme à ma folle pensée, que de guider telle charge ne présume, avant que la beauté suprême, au vent, de ses feux dédaigneux ne la disperse, et que ce qui restait de sa hardiesse la déception ne l'enrobe d'écume.
Philippe Solers, vous avez dû remarquer dans la postface de Jacoté une allusion à quelqu'un que vous connaissez bien, pour cause, qui est Francis Ponch.
Oui.
Pour le Malherbe.
Oui, certainement. Mais il y a là, je dirais que cette comparaison est justifiée. Tout le monde sait que Ponge a passé son temps à essayer de travailler sur les racines du langage, comme il l'a dit lui-même, et par essayer d'objectiver au maximum le poème comme une forme, une forme de la matière même. Hein. Bon, d'où les références à Lucrèce et à l'atomisme qui sont fréquentes chez lui. Je dirais que la grande différence, elle tient alors, encore une fois, des problèmes de métaphysique. C'est-à-dire que, en effet, Ponge est français et Ponge est protestant. Et il y a là un fondement, c'est pas une critique, c'est une constatation que je fais, qui n'est pas du tout du même ordre que Gongora, n'est-ce pas? Gongora est dans une explosion sensuelle, tout ça est évidemment un chatoiement contre-réforme. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a des rapports indubitables et une certaine préciosité, un certain cultisme de base qui est tout à fait commun. Et je crois que Ponge, en effet, a fait ce qu'il a fait, notamment Le Soleil, un de ses plus grands textes, en opposition très consciente, très lucide, avec le surréalisme. Aussi, c'est vrai. Et la référence à Malherbe a été là pour bien marquer cette espèce d'ancrage dans la tradition. Vous comprenez, l'ennuyeux, c'est que Malherbe n'est pas, à mon avis, aussi éblouissant, dans tous les sens du mot, que la tradition espagnole ou que Dante chez les Italiens, n'est-ce pas? Alors là, il y a tout ce problème historico-métaphysique des rapports des Français avec le baroque. Et là, il suffit de citer un cas alors massif, c'est l'échec de la visite de Bernini à Paris. C'est-à-dire que les rapports entre Louis XIV et le Bernin n'ont pas pu aboutir. Donc déjà, la France était engagée dans une certaine réticence par rapport à l'explosion baroque de la contre-réforme, pour des raisons d'histoire religieuse, puisque constitution de l'Église gallicane en France, etc. Donc tout ça sont des problèmes qui sont très intriqués les uns dans les autres, et qui mériteraient d'être revus très, très à fond, ce que ce que j'essaye de faire, mais j'ai pas le temps de l'étudier vraiment comme un universitaire le ferait. En tout cas, si nous avions le Louvre de Bernini, ce serait pas le Louvre actuel que nous avons à Paris, et on ne serait pas obligé de se réfléchir comment l'aménager au XXe siècle en y ajoutant par exemple une pyramide faite par un Chinois. Bernini nous aurait évité ça au XVIIe siècle. Mais pour en venir à Gongora, avec tout ça est lié. Il faut montrer, je crois, les sonnets sont absolument merveilleux. Il y en a un que je me récite toujours. Je ne résiste pas au plaisir de le dire, parce que vraiment, c'est une merveille. C'est « L'attention toda, no al objeto vano, ciego la fiesta al mejor sentido, abran las puertas exterioridades al discurso, el discurso a las verdades. » Ça veut dire quoi? C'est épatant. Toute l'attention concentrée. Fiego la fille, tu vas la confier à l'aveugle, non pas sur l'objet vain. Voilà la réponse à Ponge. Fiego la fille, non al objeto vano, non pas sur l'objet vain, mais sur el mejor sentido, sur le sens, le meilleur, le sens. Tu vas à l'aveugle te concentrer sur le sens meilleur, de façon que abran las puertas exteriores al discurso, que les portes extérieures au discours, nous sommes bien alors là à ce moment-là dans le réel, abran las puertas exteriores al discurso, de façon à ce futur, abran, que ces portes ouvriront le discours, el discurso, a las verdades, aux vérités, au pluriel, pluriel dans la vérité. Alors ça, c'est du grand gong, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois une rythmique impeccable, tordue, scintillante, on a une logique interne de la formulation parfaite, en 8, et on a une méditation théologique. Regardez ça, par exemple. « Si queréis, oh memorias, por lo menos, con la muerte librarnos de la muerte, y el infierno vencer con el infierno. » Voilà, nous sommes aussi en pleine théologie que mystique, là. Hein. « Si vous voulez, oh mémoire, pour le moins, avec la mort, nous libérer de la mort, et avec l'enfer, vaincre l'enfer. » Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vieille théorie du traitement du mal par le mal. Éminemment jésuite, très, très méconnu pour ce fait même, parce que ça a très mauvaise presse, et on pourrait faire des digressions interminables sur la façon dont, dans les rapports conçus par les poètes comme Lautréamont notamment, et par les humains en général, les rapports entre le bien et le mal, nous donnent en effet deux catégories d'existants, les uns pour qui le bien et le mal sont dans des rapports simples, et les autres qui pensent que pour vaincre vraiment le mal, il faut le traiter par le mal, par un certain mal.
Lloraba la niña y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejóla tan niña que apenas creo yo que tenía los años que aquel la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión. Memoria, memoria, dolor a dolor, llorad corazón, que tenéis razón, razón.
Une vie, une œuvre, Don Luis de Góngora, ou le triomphe du baroque, une émission du Bergeois. Avec la participation de Philippe Jacotet, Bernard Seuzé, Philippe Solers, Severo Sarduy, Claude Esteban, Rocío Bleu, Gregorio Mansour. Texte lu par Jean Bollery, Sylvie Mignonneau. Collaboration technique, Monique Pratt, Raymond Alagnès. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Que tenéis razón,
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 1986. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.